Bonsoir à tous, bienvenue dans 60 minutes BFM, votre grand rendez-vous d'actualité. Tension extrême ce soir entre l'Iran et les États-Unis. Storm is coming, la tempête arrive, menace le président américain Donald Trump, plus menaçant que jamais. L'Iran, de son côté, promet des frappes longues et douloureuses. On décrypte cela avec tous nos experts. Notre invité également, Gilles Kepel, dans quelques minutes, spécialiste de la région. Une crise militaire, une crise diplomatique et une crise économique. Le prix du baril de pétrole au plus haut depuis 4 ans. Des prix des carburants qui ne baissent que très peu. Des craintes sur l'économie, évidemment. Faut-il taxer les entreprises qui font des super profits? C'est l'idée des socialistes, c'est l'idée d'Olivier Faure. Il sera notre invité tout à l'heure. 60 minutes BFM, c'est parti. La tempête arrive, ce sont donc les menaces de Donald Trump. Le président américain va-t-il appuyer sur le bouton et frapper l'Iran dans les prochaines heures? Un message posté sur son réseau social qui laisse planer cette menace. Raphaël Redon, Manuel Abraun.
Les frappes vont-elles reprendre sur l'Iran?
Donald Trump va en tout cas se faire présenter des plans militaires.
Qui prévoit entre autres une vague de frappes courte et puissante contre l'Iran.
There will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons.
C'est dans ce contexte que l'armée française s'entraîne à une guerre de haute intensité.
Je suis là aujourd'hui pour vous dire de continuer à vous battre pour faire de la France une puissance reconnue par ses alliés et redoutée par ses ennemis.
Alors, blocus prolongé ou reprise des bombardements, le Pentagone, lui, visiblement, est prêt.
L'option privilégiée par l'administration, c'est celle du blocus naval. Donald Trump a déjà demandé à l'armée de le renforcer et de le prolonger.
Il a prévenu les pétroliers, ça pourrait durer des mois.
The blockade is genius.
Réponse du président du Parlement iranien qui promet un détroit d'Hormuz libéré de toute présence américaine.
On est parti pour un chaos géopolitique qui va avoir des répercussions pendant des mois, des semestres, voire des années.
Avec moi ce soir pour décrypter ces dernières informations, nos meilleurs spécialistes, Armin Arefi, bonsoir, vous êtes grand reporter au point, spécialiste du Moyen-Orient, Didier François, journaliste défense BFM TV, bonsoir Didier, Thierry Arnaud, éditorialiste politique internationale BFM TV, le général Patrick Dutard, bonsoir mon général, général de l'armée de l'air et ancien leader de la patrouille de France. On l'a vu à l'instant, le président américain Donald Trump menace donc de nouvelles frappes. Il va participer aujourd'hui même à une réunion avec les plus hauts gradés de l'armée américaine pour examiner de nouveaux projets, de nouvelles frappes. On prend tout de suite la direction de Washington où on retrouve Antoine Eulard. Vous nous révélez ce soir quelles sont les hypothèses qui sont sur la table.
Oui, alors c'est le média Axios qui annonce cette réunion et selon ce média, eh bien, il y a trois scénarios sur la table. Le premier, le plus probable, ce serait des frappes puissantes et rapides contre l'Iran qui viserait notamment les infrastructures énergétiques. L'idée, là, ce serait de porter un coup fatal au régime pour faire terminer définitivement la guerre ou à minima pour forcer les Iraniens à s'asseoir à la table des négociations et à négocier sur le nucléaire. Les deux autres options envisagées, c'est l'île de Karg. Les États-Unis pourraient s'en emparer. L'île de Karg, c'était une île ultra stratégique où transite 90% du pétrole iranien. Troisième hypothèse, le déploiement de forces spéciales pour aller récupérer les 450 kilos d'uranium enrichi. Ces deux dernières options, a priori, ne sont pas du tout privilégiées par Donald Trump parce qu'elles supposent un déploiement de troupes au sol et ça, Donald Trump ne veut pas prendre ce risque, il ne veut pas prendre le risque de perdre des soldats. Il considère que ce serait un suicide politique alors que la guerre est déjà très impopulaire.
Merci beaucoup Antoine Eulard en duplex et en direct de la Maison Blanche à Washington. Général Patrick Dutart, on voit ces hypothèses mises sur la table par les militaires américains si des frappes reprennent, si le président américain décide de le faire. On va revoir ces hypothèses. Première des hypothèses, ce serait des frappes extrêmement fortes mais courtes. En quoi ça pourrait consister?
À mon sens, des objectifs près du détroit d'Hormuz. Tout ce qui peut sembler être des petits navires, des vedettes rapides, des points de rassemblement, des tunnels dans lesquels pourraient se cacher des armements, toute une bande de 150 à 200 km autour du détroit d'Hormuz serait pilonnée. La seconde chose qui pourrait être faite, c'est les ponts éventuellement ou les arrivées logistiques, c'est-à-dire tous les axes de communication vers cette zone. Et la troisième chose dans le ciblage, hein, c'est éventuellement des tirs d'opportunité sur des leaders politiques. Et puis, bien sûr, sur certains objectifs militaires qui n'auraient été pas complètement traités, notamment des endroits où on cache encore des drones Shahid ou des missiles balistiques.
Didier, frappe courte et puissante, ça signifie quoi quand on est militaire, quand on met ces hypothèses-là sur la table ?
Alors, ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier effectivement ce que vient de nous décrire Patrick, c'est une tentative de nettoyer les environnements immédiats en termes de menaces, missiles et drones du détroit d'Ormuz. Ça peut être une décision d'aller casser les structures civiles, d'infrastructures énergétiques et de raffinage pour empêcher le gouvernement, le régime iranien de fonctionner, même si ça aura des conséquences dures et même terribles sur la population civile. En fait, ça peut être n'importe quoi. Le seul problème, c'est pas que eux décident que ça soit court et que ça soit violent. C'est que on a rarement vu que dans une guerre, il y ait des bombardements sans qu'il y ait des ripostes. Donc, ils peuvent vouloir ça court, mais s'ils frappent, il y a de bonnes chances que les Iraniens tapent aussi, que donc ça ne sera pas court. Ça n'existe pas. Ils peuvent faire un truc très violent, ça oui. Ils peuvent avoir des effets majeurs en s'attaquant, parce que même essayer de contrôler militairement la destruction de la menace sur les abords du détroit d'Ormuz. Bah, vous verrez bien que, en fait, ça va tourner en permanence. Ils vont faire une première frappe, puis il y en a d'autres qui vont revenir de plus loin et qui vont se remettre sur le détroit d'Ormuz et que ça n'ira pas vite. Parce que, en fait, ils ont une profondeur stratégique qui leur permet d'avoir dans la profondeur, justement, de ce pays qui est immense, la possibilité de bouger. Alors, ils auront de la destruction quand ils bougeront parce qu'ils seront repérés, mais pas entièrement. Donc, il y aura que, de toute façon, un pouvoir de dissuasion. Et la dernière chose, n'oubliez pas une chose, c'est que, aujourd'hui, ce qui prouve que les Iraniens ne sont pas totalement pris à la gorge, ce qui d'ailleurs ça se voit puisqu'ils ne veulent pas négocier, c'est qu'ils n'ont pas encore miné le détroit. Et tant que ça veut dire qu'ils pensent qu'ils ont encore un espace, soit pour la négociation, soit pour autre chose. Le jour où ils n'auront plus d'espace, vous verrez qu'ils mèneront le détroit et que ça, là aussi, on reprendra du temps. Donc il n'y aura pas de solution rapide, malheureusement, ni militaire, ni diplomatique. Les négociations, ça prendra du temps. Le blocus prendra du temps. Parce que c'est fondamental pour le régime. Donc, il trouvera des solutions pour gagner du temps.
Armin,
donc, il n'y a pas de solution rapide.
Quand on voit ces hypothèses de l'armée américaine, est-ce que les Iraniens se préparent à une nouvelle vague de frappe dévastatrice? C'est ce que disent les Américains.
Bien évidemment, les Iraniens l'affirment même qu'ils s'y préparent. Ils s'y préparaient même à la veille de la guerre, même si ils ont peut-être été surpris par l'ampleur des premières frappes du 28 février qui ont décapité l'appareil militaire, le commandement militaire et politique du pays. Maintenant, encore une fois, les Américains sont totalement capables de frapper notamment les infrastructures civiles. On se souvient qu'avant la conclusion d'un cessez-le-feu, Donald Trump avait menacé de détruire la civilisation iranienne. Mais la question, encore une fois, c'est l'objectif. L'objectif qui est avancé par Donald Trump, c'est tout d'abord de rouvrir le détroit d'Ormuz. À ma connaissance, et vous me direz si je me trompe, je ne suis pas certain que l'envoi, en tout cas des bombardements massifs au niveau de la côte iranienne, va enlever la possibilité, en tout cas le pouvoir de nuisance iranien sur le moindre navire qui tenterait de traverser le détroit. Autre chose qui est très importante, qui est mise en avant par Donald Trump, lui, il veut détruire, en tout cas, le régime, pourquoi pas une partie de l'Iran, pour amener les Iraniens à capituler sur les négociations. Or, cette idée reçue, qui est très très prégnante chez Donald Trump, visiblement, n'a pas été couronnée de succès depuis le début de la guerre. À savoir que, à la veille de la guerre, les Iraniens ont refusé, ils voulaient bien négocier, mais refusaient ce qui était décrit comme un diktat, une capitulation. Et on voit aujourd'hui que les Iraniens se refusent toujours à cette capitulation qui est demandée par Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment avoir un levier supplémentaire par rapport au début du conflit, qui est le contrôle de fait du détroit d'Ormuz. Même si les Américains, de l'autre côté, aujourd'hui, empêchent une partie des navires à se dirigeant vers l'Iran ou arrivant des ports iraniens de sortir ou d'entrer dans le détroit.
Parmi les capacités de frappe américaines, Thierry, il y a justement ce que certains côtés américains présentent, si j'ose dire, comme l'arme fatale, un missile hypersonique. On va voir des images, ça s'appelle Dark Eagle. En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça permet? On va découvrir ce sur quoi on a travaillé. Vous allez voir, il y a des infographies. Peut-être que le général Patrick Dutartre aussi a des éléments à nous donner là-dessus. Ça correspond à quoi comme type d'arme?
Alors, un missile hypersonique, comme son nom l'indique, c'est un missile qui est d'une vitesse exceptionnelle et qui, par conséquent, est difficile, pour ne pas dire impossible à arrêter une fois qu'il est parti sur une trajectoire qui est ascensionnelle, puis il redescend quasiment à pic. Et évidemment, ce serait franchir une étape supplémentaire de la part des Américains que de recourir à cette arme, sachant que par ailleurs, outre le missile, ils disposent d'ores et déjà, les États-Unis sur place, d'un arsenal qui est supérieur à celui qui était en leur possession le 28 février.
C'est l'arme fatale, si j'ose dire.
Non, pas du tout. En fait, c'est un moment, une sorte d'attaque MS, mais beaucoup plus rapide, qui arrive au-delà hypersonique. Généralement, c'est au-delà de Mach 5, donc 5000 km/h pour faire simple. Et dans le cas présent, c'est pas tellement intéressant pour l'Iran. Pourquoi? Il a même pas de système de défense aérienne. C'est intéressant lorsque vous avez en face de vous un pays qui dispose de solides moyens de défense aérienne, d'intercepteurs, auquel cas intercepter ce type de missile, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en l'occurrence, ça n'a pas de... Je ne sais même pas s'il va être utilisé. Ils nous le présentent peut-être pour montrer une évolution de leur système. Mais en l'occurrence, sur le théâtre d'opération iranien, ça n'a pratiquement pas de plus-value, à mon sens.
Oui, il y a pas de... ils ont pas d'intercepteur antimissile. Donc oui, effectivement, le seul avantage que ça a, ce truc-là, c'est la portée. Par rapport aux Atacams, qui eux sont limités en portée. Là, c'est une portée qui touche l'ensemble du territoire iranien, donc ça peut aller assez loin. Et ça permet effectivement d'éviter, peut-être dans certaines zones où il y aurait du risque de missiles portés à l'épaule contre des avions qui seraient un peu bas, de traiter ces cibles-là sans engager les avions pour éviter d'avoir à refaire l'opération de sauvetage des pilotes si jamais il y avait un nouvel avion qui volant trop bas aurait été abattu. Mais c'est à peu près le seul truc, parce que aujourd'hui, honnêtement, avec leurs avions, ils vont huile. Donc ça sert qu'à ça, ça sert plutôt à pouvoir taper dans la profondeur sans engager les pilotes.
Au cœur, évidemment, des hypothèses mises sur la table par les militaires américains Donald Trump, il y a toujours, évidemment, au centre de tout, la question du détroit d'Ormuz. On rejoint tout de suite Marie Gentric, l'une de nos envoyées spéciales, qui est sur le terrain avec Anthony Métro à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Bonsoir Marie, un détroit qui est toujours paralysé, des États-Unis qui envisagent donc de le débloquer, y compris par la force.
Exactement, Guillaume, puisque comme vous le disiez en plateau, comme on entendait Axel Monnier le dire depuis Washington DC, parmi les trois options qui ont été présentées à Donald Trump s'il souhaite une action militaire en Iran ou du moins dans la région, eh bien il y a cette option de débloquer le détroit d'Ormuz par la force. Et cela, eh bien, pourrait impliquer d'envoyer des troupes au sol. C'est donc une option qui, eh bien, voudrait dire une escalade militaire considérable. Et je peux vous dire que ça, ici, aux Émirats Arabes Unis, eh bien, ça suscite de l'inquiétude. Pourquoi? Eh bien, parce que les Émirats Arabes Unis sont le pays du Golfe qui a été le plus touché lors des 40 premiers jours de la guerre, avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les autorités affirment que plus de 2800 missiles et drones ont été tirés vers les Émirats Arabes Unis lors de ces 40 premiers jours, tirés par l'Iran. La grande majorité, bien entendu, a été interceptée, mais ça reste un chiffre impressionnant. Et 90% des cibles étaient des infrastructures civiles. Là, toujours, ce sont les données des autorités locales. Donc ici, effectivement, la perspective d'une escalade, la perspective d'un déblocage du détroit par la force inquiète beaucoup, puisqu'une réescalade est une option qui suscite beaucoup donc d'inquiétude.
Merci beaucoup, Marie Gentric, avec Anthony Métro. On le voit dans cette guerre psychologique, Amine. Personne ne lâche rien, y compris évidemment du côté de Téhéran, avec les mots aujourd'hui du nouveau guide suprême, en tout cas les mots lus à la télévision iranienne. Il menace lui aussi les États-Unis, écoutez-le.
Aujourd'hui, deux mois après la plus grande expédition militaire et l'agression des tyrans mondiaux dans la région et la défaite humiliante des États-Unis dans leur plan, une nouvelle ère du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz est en train de se dessiner.
Comment décrypter ces mots lus donc à la télévision iranienne du nouveau guide suprême? Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière?
Déjà, le nouveau guide suprême, on ne sait pas aujourd'hui. On sait qu'il est en vie, mais on ne sait pas dans quel état il est. On sait qu'il a été gravement brûlé, qu'il a été défiguré par le bombardement du complexe de son père, l'ayatollah Ali Khamenei, le 28 février dernier. Et aujourd'hui, on sait que c'est l'homme des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, dont il est très proche. Comment il faut les décrypter? Bah, c'est un signe aujourd'hui de l'intransigeance des dirigeants du pays, notamment de Ahmad Wahidi, le chef des gardiens de la révolution, qui a un pouvoir considérable dans ces négociations et qui indique que l'Iran, et ça on le sait, ripostera. C'est-à-dire qu'effectivement, les Américains ont totalement la possibilité de faire passer à très mauvaise heure à l'Iran, mais que, comme depuis le début du conflit, de façon d'ailleurs assez symétrique, à chaque fois que l'Iran a été attaqué, ils ont visé les maillons faibles dans la région, qui sont les pays du Golfe, à l'aide de leurs missiles, mais surtout de leurs drones, qui ont réussi à déjouer, en tout cas, un certain nombre des systèmes antimissiles. Et donc, c'est la question. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est considéré par l'Iran comme une prise de guerre. Dans les négociations, l'Iran veut que ce détroit ne soit plus, on va dire, une eau de navigation libre, mais en tout cas, que l'Iran puisse gagner une sorte, à l'image d'un péage, gagner une sorte de dîme sur chaque navire passant par ce détroit. Et on voit bien qu'encore une fois, côté américain, il peut y avoir une volonté de l'ouvrir par la force. Les Américains, au niveau militaire, sont bien supérieurs aux Iraniens. Le problème, c'est que ça ne se fera pas s'il y a notamment des descentes au sol de soldats américains. Ça ne se fera pas sans perte américaine. Et ça, les Iraniens, comme tous les observateurs de la diplomatie aujourd'hui, savent très bien que Donald Trump, ça serait très négatif pour lui. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, les options pour Donald Trump sont assez limités. Il a la possibilité d'envoyer des hommes au sol pour tenter de récupérer l'uranium hautement enrichi, pour essayer d'ouvrir par la force le détroit d'Ormuz. Mais l'Iran, qui est un pays extrêmement vaste, garde ce pouvoir de nuisance. Et d'une façon ou d'une autre, il faudra en venir à la table des négociations à nouveau. Et il faut savoir que là-dessus, que les Iraniens ont été prêts à lâcher un peu de lest, mais qu'il y a certaines lignes rouges qui ne sont pas prêtes à franchir, comme par exemple garder un minimum d'enrichissement d'uranium, garder aussi un minimum de stock d'uranium hautement enrichi. L'autre partie serait livrée à la Russie, mais par ailleurs, pas question de qu'à côté iranien de parler pour l'instant de la question des missiles balistiques ou des proxys. Donc, d'une certaine manière, certes, le régime est très très affaibli, a vu son commandement militaire et politique être décapité, mais de l'autre, la position iranienne et l'intransigeance iranienne n'a pas véritablement diminué par rapport au début de la guerre. Et ça marque là l'impasse aujourd'hui de la stratégie de Donald Trump, si tant est qu'il ait une stratégie sur la question.
Thierry, on le disait, effectivement, les Iraniens menacent de nouvelles frappes longues et douloureuses. Mmh. Les Américains sont prêts à cela?
Oui, alors les Américains sont prêts à ça dans la mesure où effectivement ils ont eu maintenant une vingtaine de jours depuis l'arrêt des combats pour préparer les scénarios suivants et tirer les leçons de ce qui s'était passé sur les 40 premiers jours. Parce que ce que l'on a peu dit, singulièrement les Américains l'ont peu dit eux-mêmes, c'est que les dégâts causés par les Iraniens lors de cette première phase de la guerre ont été en réalité très important. Il y a eu évidemment les 13 morts qui sont reconnus officiellement, les 400 blessés, mais une enquête de la chaîne NBC News disait il y a quelques jours que les dégâts sur les bases américaines étaient très substantiels, bien supérieurs à ce qui avait été rapporté officiellement par le Pentagone, probablement plus de 5 milliards de dollars de dégâts et certaines installations qui sont gravement endommagées. Donc il ne fait aucun doute, Guillaume, que depuis une vingtaine de jours maintenant, on a eu l'occasion de regarder ce qui s'était passé, là où étaient les trous dans la défense américaine, et en tirer les conclusions, et réévaluer la réalité de la menace iranienne.
Gilles Kepel va nous rejoindre dans une seconde, professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir Gilles Kepel, merci d'être avec nous. On le disait, tension extrême ce soir. Ce qui est marquant, c'est que personne ne lâche. D'un côté, le président américain Donald Trump, qui le dit, storm is coming, la tempête arrive. Les Iraniens, de leur côté, qui promettent, si j'ose dire, des frappes longues et douloureuses si les Américains reprennent leurs frappes. Comment vous qualifiez la période actuelle? Certains disent, nous sommes au bord du chaos.
Oui, enfin, en tout cas, les deux essayent de le faire croire. À ce qui va advenir, on n'en sait rien pour l'instant, mais bien sûr, le ton a monté considérablement. Alors que depuis effectivement le 13 avril, il n'y avait pas eu d'opération militaire à proprement parler, et que les États-Unis étaient convaincus que la pression maximale qui était exercée allait obliger les Iraniens à céder. Mais ça, c'est aussi le problème de cette diplomatie qui n'est pas une diplomatie de Trump, c'est-à-dire c'est le fort en gueule. Et de l'autre côté, il n'y a pas de message qui passe. Vous voyez, c'est un peu le problème. Alors, quels étaient les arguments? C'était que l'Iran, vous avez entendu parler des dommages de guerre, on estime à peu près qu'il y a au moins pour 270 milliards de dollars de destruction en Iran avec la métallurgie, la sidérurgie, la pharmacie, etc. qui sont à terre, des gens qui sont licenciés en quantité. Le rial iranien, si on peut parler de l'unité, il faut 1 800 000 et quelques rials pour faire aujourd'hui $1. Non, 18 millions, je ne sais plus. Enfin, je
pense que c'est 1 800 000.
1 800 000, j'ai trompé du.
Et c'était à peu près 1 500 000, 1 500 000.
Voilà, c'est ça.
Guerre.
Donc, ça a encore baissé. Et donc, on pouvait estimer que, en plus, avec le blocus qui a pour l'instant 3 porte-avions. Il y a 3 groupes aéronavals. Le Gerald Ford, le George Bush et l'Abraham Lincoln. Et apparemment, le Gerald Ford, qui a passé plus de 300 jours en mer, va devoir rentrer. Donc, si frappe il y a, on est aujourd'hui dans un moment où il y a une puissance de feu plus forte.
Vous qualifiez comment ce moment, Gilles Kepel, le moment qu'on est en train de vivre ?
Mais justement, c'est un moment d'éventuellement un immense bluff avant ou non la frappe. Mais les États-Unis ne sont pas parvenus à faire céder l'Iran du fait d'incapacité négociatrice entre autres de leur équipe qui n'est pas au point mais là je crois qu'il y a l'autre élément sur lequel comptaient beaucoup les Américains, c'est que les Iraniens n'y a plus aujourd'hui, du fait du blocage américain en mer d'Arabie, il n'y a plus d'enlèvement pétrolier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'Iran, donc la situation est catastrophique, et surtout le stockage est plein, et si ça continue encore quelques jours, les champs de pétrole iraniens qui sont vétustes, les installations, il faut envoyer du gaz dedans pour que ça sorte, vont être incapacités.
Ça veut dire que c'est quoi ? C'est une guerre du temps, si j'ose dire ?
C'est une guerre d'usure, oui. Alors, c'est-à-dire, on était dans une guerre d'usure. Et aujourd'hui, Trump dit, on va taper. Et à ce à quoi répond, ou fait répondre Mojtaba Khamenei, s'il est encore vivant, ou si c'est lui qui parle, ou on ne sait pas, enfin... On lit une déclaration de lui qui annonce que l'Iran va infliger des pertes terribles aux États-Unis, que les États-Unis ont déjà été vaincus, etc. Donc on est aujourd'hui dans une espèce d'inflation au moins verbale pour faire céder les autres. Il faut bien voir que ça suit du côté iranien une tournée qu'a fait le ministre des Affaires étrangères Sayed Abbas Araghchi à Oman et à Moscou, où il a peut-être obtenu quelques assurances. Il est frappant que le front arabe est en train de se fissurer de l'autre côté. Oman n'est pas allé, qu'a vu M. Araghchi, et qui a toujours été l'intermédiaire entre l'Iran et les autres, n'est pas allé à Jeddah, à la conférence qu'a rassemblé le prince héritier Mohammed Ben Salman, pour essayer de trouver une espèce d'unité du Golfe. Demain, les Émirats arabes unis sortent de l'OPEP.
Absolument.
Et ce qui signifie donc que le front uni des producteurs de pétrole, maintenant les prix élevés, risque de se fissurer aussi.
Mais qui maîtrise le temps finalement ? Les Américains ou les Iraniens ?
Bien, c'est bien le problème. Chacun croit qu'il le maîtrise, mais les échéances sont différentes.
C'est-à-dire
une course contre la mort inversée. Pour les gardiens de la Révolution, eux, ils veulent se bunkériser, rester, tenir le plus longtemps possible, pour faire craquer Trump le premier. Faire craquer Trump, ça veut dire faire en sorte qu'il va aller vers les élections de midterm avec une opinion qu'il est en train de perdre, avec 2/3 des électeurs qui sont opposés à la guerre. Aujourd'hui, le comptable du Pentagone a annoncé déjà la première facture, principalement pour les munitions, qui est de 25 milliards de dollars pour... les 2 mois de guerre, ce qui est énorme. Donc tout cela est quelque chose que les Iraniens veulent essayer de tenir. Ils veulent contrôler le temps eux-mêmes. Et de l'autre côté, Trump, lui, considère que l'Iran, ayant subi tous les dommages dont on a parlé, l'effondrement de l'économie et autres, ne pourra pas tenir. Et que les gardiens bluffent. Ajoutez quand même un troisième élément, parce qu'on parle, là on est tous focalisés sur le front du Golfe, mais il y a le front israélo-palestinien et israélo-libanais qui ne va pas fort du tout en ce moment. Le Hezbollah a mis au point des nouveaux drones avec fibre optique indécelable qui ont fait des ravages chez les soldats israéliens qui sont dans la zone sud, continue à attaquer au Liban. Le cessez-le-feu n'est pas respecté de facto. Et il y a aujourd'hui une très grosse impatience de Netanyahou, qui est lui-même en perspective électorale à l'automne, de reprendre l'attaque. Il a déclaré aujourd'hui, si Trump ne fait pas le boulot, c'est moi qui vais attaquer. Donc, pour l'instant, tout le monde est en train de faire monter la tension au maximum. Jusqu'où est-ce que c'est réel et jusqu'où est-ce que c'est une tentative déstabiliser l'adversaire? Ça, on le saura demain. C'est un peu le problème de cette guerre depuis qu'elle a commencé. C'est que le commentaire au jour le jour est extrêmement compliqué, surtout quand on a un président américain qui dit tout et son contraire en même temps, avant ou après. Donc là, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de mettre, enfin, ce que j'essaie de faire en tout cas, c'est de mettre les choses en perspective. Mais ne me demandez pas ce qui va se passer demain soir.
On vous réinvitera. Armin Affet.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Si je peux résumer, en fait, les Iraniens qui sont connus comme étant un peu les maîtres des horloges courent un marathon. 42 kilomètres, ils estiment qu'ils ont le temps pour eux, ils estiment qu'ils ont réussi déjà en bloquant le détroit d'Ormuz, qui est une carte qu'ils n'avaient pas auparavant, et surtout que le régime n'est pas tombé. Et ça, pour eux, c'est une grande victoire, alors que c'était un des objectifs annoncés à tout le moins par Israël. Pour ce qui est des États-Unis, Trump, au début de la guerre, courait à 100 mètres. Il pensait justement que cette guerre, il la terminera en 3 jours sur les conseils avisés de Benjamin Netanyahou. Force est de constater que ce n'est pas arrivé. Donc aujourd'hui, il change de stratégie avec cette histoire de blocus, qui est une stratégie, je trouve, assez intelligente. On est davantage sur du 10 000 mètres, si je puis résumer ainsi. Maintenant, il faut savoir quand même une chose, c'est que aujourd'hui, les Iraniens, ça fait environ 8 ans qu'ils sont sous cette politique de pression maximale de la part des États-Unis, qui ont prononcé contre l'Iran plus de 1500 sanctions, notamment des sanctions l'empêchant d'exporter son pétrole, qu'il arrivait quand même à vendre à la Chine. Le pétrole iranien, c'est quoi? C'est de 15 à 25% du PIB de l'Iran, donc ce n'est pas toute l'économie, même si c'est 70 à 80% des exportations iraniennes. Ce que je veux dire par là, c'est que les Iraniens, même si bien sûr que ce blocage des ports iraniens, ça les affaiblit, ont encore plusieurs mois devant eux. Donald Trump, lui, il voit quoi? Il voit les mi-termes, comme ça vient d'être dit, le mois de novembre. Donc la question, c'est qui va craquer le premier et surtout pourquoi? Les Iraniens, aujourd'hui, estiment que la seule manière pour Trump de renverser le régime, c'est d'envoyer des hommes, et pas 10 000 hommes, pas 20 000, au moins 300 000, bien plus qu'en Irak en 2003 de la part des États-Unis. Côté Trump, on veut faire capituler le régime. Or, ce régime ne capitulera pas. Et si demain, il est frappé de façon très dure sur les sites énergétiques, il va riposter sur les pays du Golfe. Donc, soit Trump est sérieux et conclut un deal gagnant-gagnant avec la République islamique d'Iran pour que tout le monde sorte la tête haute et que les épargnants du monde entier respirent au niveau du prix de l'essence, soit on continue et on va vers cette escalade qui montre le bout de son nez et on n'y arrivera pas. Et on va vers des heures extrêmement difficiles dans la région avec en premier lieu l'Iran qui va être touché, la population,
et mais également les pays du Golfe. Évidemment, qui se font dans les pays du Golfe. Général Patrick Dutert, je vous donne la parole juste après, Thierry. La guerre psychologique dont parle quand on est militaire, comment on vit ça? On est prêt à finalement entrer en action, mais on n'entre pas en action. Est-ce que ce n'est pas épuisant pour les militaires?
Non, pas vraiment. C'est plutôt pour les politiques, à mon avis, la guerre psychologique. Parce que le militaire, lui, il fait son job. Hein, il est entraîné. Soit il appuie sur le bouton, soit il fait de l'entraînement. Donc, il est entraîné. C'est son métier.
C'est son métier.
Donc là, il y a une pression psychologique, bien sûr. Lorsque vous êtes prisonnier de guerre, là, ça c'est vraiment autre chose. Et Didier, c'est de quoi je parle. Mais vous n'avez pas de pression particulière. Sauf si on vous met dans des conditions, si vous voulez, qui sont pas acceptable. Alors c'est vrai qu'on a un point extrêmement difficile. Hein. On se demande ce qui va se passer. Hein. Ça peut passer d'un côté ou de l'autre. Tout était exposé, résumé sur une situation qu'on connaît finalement maintenant assez bien. Je pense que il va y avoir une opération pour débloquer un peu la chose si possible. Mais est-ce que ça va débloquer ou en fait envenimer encore plus la situation? C'est toute la question. Il faut surtout pas, à mon avis, quand même, qu'il y ait de bombardements sur l'île de Karg. Parce que si on met le feu aux ressources, en fait, aux ports, aux principales stations-service iraniennes, eh ben, on risque d'avoir la même chose de l'autre côté et dans les bateaux, et ça, c'est pas bon.
L'île de Karg, c'est vraiment stratégique, Gilles Kepel.
Mais c'est le lieu, oui, d'où on fait tous les enlèvements, puisque la côte iranienne, les eaux sont assez basses, hein, comme de l'autre côté. C'est pourquoi il y a tant de pétrole qui a été piégé pendant le Frat et du Tigre dans le Golfe Persique ou Arabo-Persique. Et donc, c'est le seul endroit où les pétroliers peuvent aborder en eau profonde. Donc, c'est là le trésor, d'une certaine manière, iranien. Et c'est ce qui apporte le cash. C'est ça qui, c'est la clé, c'est le coffre-fort, si vous voulez, surtout aujourd'hui, dans la période de pénurie absolue. Et il y a, je crois, désormais 40 ou 45 navires qui allaient en Iran, qui ont été refoulés en mer d'Arabie par la par cette espèce de cordon. Alors évidemment, le contre-blocus américain, ça semblait être la martingale finalement, et la certitude d'enfermer l'Iran. Mais le problème toujours, c'est que Trump ne sait pas négocier. Alors je ne sais pas si votre image du sprint contre le marathon, ça me semble effectivement très juste pour comprendre. Mais surtout, les hommes d'affaires de l'immobilier qui sont aux manettes n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une négociation politique. Et ça, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement frappant dans une sorte d'incompétence au sens propre de la haute administration américaine aujourd'hui, du pouvoir de Washington, qui, à mon souvenir, ne s'est jamais vu dans l'histoire. Même à l'époque de la guerre d'Irak ou autre, vous aviez Reagan ou autre, était Nixon, et avait des formations diverses qui n'étaient pas vraiment les nains locales, si j'ose dire, mais ils savaient s'entourer. Or là, on a l'impression que les États-Unis ne sont plus un État, mais une espèce de multinationale gérée comme une start-up ou un GAFA, si vous voulez.
Gilles Kepel, ce qui est marquant, on le disait au-delà même de ce conflit actuel au Proche et au Moyen-Orient, c'est que tous les pays, si je veux dire, se préparent à la guerre. La France mène un exercice depuis plusieurs mois qui s'appelle l'exercice Orion, Didier. Merci. On va voir le chef de l'État qui s'est rendu effectivement aujourd'hui sur l'un des derniers moments de cet exercice. 12 000 soldats qui ont été mobilisés depuis le début de l'année. C'est un exercice d'une ampleur inédite depuis la fin de la guerre froide. Regardez ces images, on va dire ce que ça représente après et tout l'enjeu qu'il y a derrière cela et ce que ça dit aussi des tensions dans le monde. Regardez. Alors Didier, on a vu ces images-là. Concrètement, c'est une opération inédite, on le disait, depuis la fin de la guerre froide. Ça sert à quoi pour la France, être en capacité, vraiment, si demain, il y a un affrontement majeur, c'est ça?
En fait, on n'avait pas fait ça. Les derniers grands exercices où on sort tout le matos et on y va à fond avec les avions, les bateaux, l'armée terre. Là, c'est les trois armées, hein, plus le cyber, plus tout ça, plus le commandement, plus le service de santé des armées. Donc c'est l'échelle divisionnaire, c'est une échelle de pouvoir s'engager sur un conflit majeur à l'échelle de 25 000, 30 000 hommes. On l'avait pas fait depuis les 87, Kriegsschlacht, où il y avait une vingtaine de milliers de Français engagés, la 6e DBLE, qui était la division légère blindée, la 4e division aéromobile, et à côté 55 000 Allemands. Donc c'est pour vous dire que ça commence à remonter, et on n'avait plus jamais ressorti de nos casernes l'ensemble du matériel pour... parce que tout ça, il faut le tester. C'est la guerre en Ukraine. Là, c'est pas l'Iran qui nous turlupine. On regarde de près parce qu'il y a des choses qu'on apprend. Entre autres, par exemple, la défense contre les drones. On voit bien que la défense contre les drones, on va pas la faire avec des missiles. Mmh. Ça coûterait beaucoup trop cher. On est en train de mettre en place mais là, ce qu'on est en train de travailler, c'est vraiment le scénario que l'on craint et qui est le scénario d'engagement majeur en termes de qui a été montré, qui a été décidé par les états-majors et par le président de la République en juillet dernier, qui est le fait de pouvoir, en Europe, aux côtés de nos alliés, s'engager face, alors ça s'appelle Mercure là dans l'examen, mais la Russie, pour dire les choses telles qu'elles sont, à l'échelle d'une division, sur le territoire européen, en dehors des frontières françaises. Et pour ça, eh bien, on est en train de tester plusieurs choses. La place des drones. Et on s'est rendu compte, par exemple, dans les exercices, que on avait un problème de normes. Parce qu'aujourd'hui, pour tester les drones en France, en temps de paix, c'est pas facile. On peut le faire sur le matériel militaire, mais on peut pas le faire en grandeur réelle. Donc, on a besoin de changer les règles là-dessus. On s'est rendu compte que les PC, les postes de commandement, fallait les changer tout le temps de place. Parce que aujourd'hui, et que nos PC qui étaient à 500 hommes, eh ben, on va les réduire à 100 hommes. Parce que ils tiendraient pas sous le feu dans la profondeur ennemie, sous les Russes. Ça veut dire que on est en train de travailler sur le fait qu'on manque de défense antiaérienne, qu'on manque d'un certain nombre de choses. On l'a vu dans cet exercice. Donc, c'est vraiment de la coordination. C'est de l'apprentissage. La guerre électronique, qui est devenue un enjeu majeur et sur lequel on a encore des faiblesses. Parce que, encore une fois, il y a 30 ans, pendant lesquels on n'a pas eu assez. Et donc, maintenant, on est en train de monter en gamme et de regarder vraiment vraiment là où il faut qu'on mette l'effort sur l'argent qu'on met en plus dans les armées.
Général Patrick Dutarte, on voit, on le disait, cet exercice qui correspond à un affrontement qui aurait lieu avec la Russie, mais ce qui est déployé actuellement, est-ce qu'on voit des éléments qui nous permettraient d'agir, je veux dire, dans l'autre conflit, le conflit au Moyen-Orient? Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire au Moyen-Orient? C'est vraiment la sécurisation, surtout du détroit d'Ormuz? On a les moyens d'aller faire quoi là-bas?
Alors, déjà, il n'y a pas besoin de faire d'exercice au Moyen-Orient parce qu'on est dans la bataille.
Avec les bases.
Ah ben, ça, c'est clair. On a intercepté quand même une centaine de drones Shahid, hein. Et donc, il y a avions de combat, de l'armée d'air et de l'espace. Et ils exercent un petit peu ici, mais ils font la guerre tous les jours.
Est-ce qu'il y a des leçons tirées lors de cet exercice Orion qui peuvent immédiatement servir aux forces françaises présentes?
Non, parce qu'on n'engagera jamais une division au Moyen-Orient.
Parce que c'est pas le même scénario. Là, on est vraiment, comme disait Didier, là, on est dans le scénario ukrainien. C'est que il y a un engagement, il y a un pays de l'OTAN qui est touché, où on défend les pays baltes, ou la Pologne, ou la Roumanie, et là on se met en première ligne avec une coordination du champ de bataille.
C'est le combat en Europe là.
Par contre, ce qu'on fait au Moyen-Orient actuellement, notamment avec l'armée de l'air et l'espace, sur les bases aériennes qui sont déployées, c'est tous les jours, hein, et on essaye enfin, de déployer des systèmes de drones anti-drones, ce qui était temps de faire. Voilà. Le scénario, malheureusement, le théâtre d'opération ukrainien nous apprend que c'est une chose qu'il fallait prendre en compte depuis 4 ans. On s'y met maintenant à marche forcée. Il faut encore aller plus fort, il faut qu'on soit capable d'intercepter ces chaïds. Ça changerait pas mal la donne, hein, si on avait vraiment une défense bien organisée anti-chaïds. Les menaces, notamment dans le golfe Aro-Persique, seraient pas du tout les mêmes.
Alors, conflit, on le disait, au Moyen-Orient, crise diplomatique, crise économique liée évidemment au prix du pétrole qui a bondi. On repart tout de suite, justement dans la région, retrouver Marie Gentry, qui est avec Anthony Métro à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Évidemment, le risque de reprise des hostilités, Marie, ça impacte les marchés. Les investisseurs ne sont pas optimistes et le prix du pétrole a encore bondi.
Oui, le prix du baril de Brent a même dépassé les 126 dollars aujourd'hui. C'est du jamais vu depuis plus de 4 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce pic de peur sur les marchés? Là, c'est un petit peu redescendu, même si ça reste très élevé. Pourquoi ce pic de peur donc sur les marchés? Eh bien, pour de grandes raisons. Première raison, les marchés craignent que la situation dans le détroit d'Ormuz ne reste paralysée pour encore des semaines et des semaines, voire des mois, puisque Donald Trump, qui rencontrait des patrons de compagnies pétrolières hier, leur a indiqué qu'il envisageait de prolonger le blocus naval américain pendant des mois. Et la deuxième option, c'est que les investisseurs craignent une reprise des hostilités, à savoir que la guerre militaire ne reprenne, en plus de la guerre économique qui ne se poursuit. Et je vais vous dire, ici, dans la presse, aux Émirats Arabes Unis, eh bien, il y a cet article, c'est en Gulf News, c'est un grand journal ici, un article qui explique que les investisseurs, pour certains, craignent que le baril de Brent n'atteigne les 150 dollars si la situation perdure, non pas encore pendant des mois, mais pendant des semaines, certains ont même peur que le baril de Brent n'atteigne les 200 dollars.
Merci beaucoup Marie Gentric avec Anthony Métro depuis Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Yves Tréhard nous a rejoint. Bonsoir éditorialiste politique BFM TV. Edwige Chevrillon, éditorialiste BFM Business. Edwige, les mots extrêmement forts prononcés aujourd'hui par le patron de l'Agence internationale de l'énergie. Il dit « Le monde est confronté à la plus grave crise énergétique de son histoire. Est-ce qu'on est en train de vivre une bascule historique ?
Alors, ça dépend où est-ce que vous êtes. Si on est en France, en Europe, aux États-Unis, non. Par contre, si vous êtes en Asie, si vous êtes en Afrique, oui. C'est-à-dire que nous, le choc le plus important, c'était clairement celui de 1973 avec le choc d'après. Donc, pour l'instant, on n'a pas de problème de pénurie, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, nous, en France, et en Europe, on n'est pas en train de vivre la crise pétrolière la plus grave de l'histoire du pétrole.
Mais est-ce que c'est une bascule mondiale quand même qui est en train de se faire quand on observe la région économiquement ?
C'est une bascule mondiale d'abord parce qu'on ne sait pas où on va. On le dit à longueur d'antenne, c'est toute la difficulté, c'est de savoir si on va être dans une crise qui va durer, si on va être dans une crise où on va avoir destruction des infrastructures, par exemple en Iran. Vous voyez, c'est toutes ces hypothèses qui feront qu'on basculera dans une crise énergétique qui sera pour le coup extrêmement grave. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ce scénario-là.
Très clairement, on voit que les Américains vous commencent à voir très concrètement, Thierry, les conséquences économiques, y compris chez eux. L'administration Trump est en pourparlers avec les compagnies pétrolières américaines pour essayer d'augmenter la production clairement aux États-Unis. Là aussi, c'est la pression de la base électorale. Et concrètement, il y a les mêmes problèmes sur le plan de l'énergie et du carburant.
Oui, absolument. Les chiffres sont désastreux pour Donald Trump, qu'il s'agisse de ses sondages sur sa propre popularité, qu'il s'agisse sur des sondages sur ses résultats en matière économique, qui sont désormais désapprouvés par une majorité de républicains, s'agissant de l'inflation, par exemple. Le prix à la pompe dépasse désormais les 4 dollars pour un gallon, alors qu'il était entre 2 et 3 au moment du début du conflit, et qu'il faut rappeler que pendant la campagne électorale, Donald Trump fait une promesse qui est de diviser par 2, de baisser de 50% le prix de l'essence à la pompe. Donc c'est une difficulté majeure pour le président américain, et il essaie de faire pression là où il peut. Effectivement, les États-Unis sont producteurs de pétrole, et donc il reçoit les compagnies pétrolières pour essayer de trouver une solution pour contourner cette difficulté et obtenir enfin au mieux une baisse et au pire une stabilisation des prix à la pompe aux États-Unis, parce que politiquement, c'est en train de lui coûter très cher.
Edith, ce qu'on a clairement l'impression qui a changé ces derniers jours dans l'esprit des investisseurs, des dirigeants du monde entier, c'est que clairement, ce n'est plus une crise de court terme. Tout le monde le dit, c'est une crise au moins de moyen terme dans laquelle nous sommes engagés.
Oui, absolument, parce qu'une crise de court terme, ça veut dire ben ça y est, ça s'arrête demain, il y a plus qu'un problème, tout repart comme avant. Là, on n'est plus du tout dans cette hypothèse-là, c'est clair. Parce que
pas de retour à la normale rapide.
Non, il faudra au mieux, alors ça dépend, on dit 6 mois à peu près.
Six mois.
À condition qu'il y ait une solution là, dans les prochains jours ou dans les toutes prochaines semaines. 6 mois, pourquoi? Parce que il faudra évacuer déjà le fameux détroit d'Hormuz. Il faudra, on voit bien que pour les Iraniens, aujourd'hui, ils sont dans une difficulté où ils continuent à produire du pétrole, mais ils peuvent tenir encore 2 semaines. Dans 2 semaines, il faudra qu'ils arrêtent leur production. Et là, si on arrête leur production, ça veut dire que les puits, ils deviennent inutilisables. Parce que ils sont vieux, parce qu'il y aura des gouttes d'eau qui vont se mettre dedans, donc il faudra trouver d'autres solutions. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le court terme. On est dans le moyen terme, au mieux.
Julien Migaud-Muller nous a rejoint. Julien, vous avez jeté de très près un coup d'œil justement sur l'évolution du prix du baril. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a flambé.
Oui, le prix du baril n'a jamais été aussi élevé depuis 4 ans. Depuis le début de la guerre en Ukraine d'ailleurs, il a dépassé, regardez, cette nuit et ce matin, les 126 dollars. Alors, actuellement, ça se calme un petit peu. Mais ce qui est impressionnant en fait, ce qu'on constate, c'est que ça monte et ça baisse très très vite. On est en ce moment à 114 dollars le baril, c'est très volatile. À cela s'ajoute la question du raffinage et de l'approvisionnement. Regardez d'ailleurs l'évolution des prix moyens des carburants. L'essence est à 2 euros le litre, plus 26 centimes depuis le début de la guerre. Le diesel, observons ensemble, 2,20 euros le litre, plus 48 centimes le litre. Alors, est-ce que ça va encore augmenter? Écoutez ce spécialiste des questions énergétiques.
Chaque mois que le détroit d'Hormuz est fermé, le Brent augmente de l'ordre de 30 dollars par baril. 30 dollars par baril, c'est à peu près, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, c'est à peu près 20 centimes d'euros par litre qui seront additionnés chaque mois sur le prix à la pompe.
Julien, il n'y a pas que les prix de l'essence qui augmentent.
Non, tout augmente. Et comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, avec les chiffres de l'inflation qui sont tombés ce matin, ça donne quoi? Plus 2,2% en avril sur un an, contre 0,8% en avril de l'année dernière. Là encore, l'INSEE n'avait pas vu les choses de manière aussi élevée. Tout cela porté en grande partie par la flambée des prix de l'énergie, plus 14%, mais aussi à cause du coût des transports, mais aussi ça commence dans les rayons de l'alimentaire.
Allez, donnez-moi un peu d'espoir, peut-être qu'on peut se rassurer un peu avec les chiffres de la croissance.
Désolé, pas d'espoir, croissance zéro pour la France au premier trimestre 2026. Alors ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, qu'on n'a pas produit plus de richesses ces derniers mois. La Banque de France misait sur plus 0,3%, l'INSEE, un peu moins optimiste, disait plus 0,2%, eh bien, il n'en est rien. Et comment est-ce qu'on l'explique? Eh bien déjà, la consommation qui porte la croissance, eh bien là, elle est en léger recul, moins 0,1%. L'investissement, lui aussi, est en repli, moins 0,4%. Et puis le commerce extérieur, c'est-à-dire les ventes de la France à l'étranger, c'est encore moins bien, moins 0,7%.
Merci beaucoup Julien. Yves, mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui n'avait pas besoin de ça, si j'ose dire.
Très mauvaise nouvelle, parce que le gouvernement, comme vous le savez, est à la tête d'un pays
qui est un pays endetté jusqu'au cou, plus de 3 000 milliards de dettes et aussi très très peu de marge. Donc du coup, et la politique qui avait consisté pendant la crise du coronavirus à distribuer de l'argent d'une certaine façon, aujourd'hui c'est terminé. Donc le gouvernement jusqu'à présent s'en est tenu à des aides vraiment très par catégorie, avec les routiers, avec les agriculteurs, avec certaines professions qui ont besoin de beaucoup rouler. Mais est-ce que ça sera suffisant sur la longueur, dans la mesure où cette crise risque de durer, premièrement, et puis deuxièmement, il y a une pression à la fois politique et de l'opinion publique qui est très forte, compte tenu aussi de certaines informations qui montrent par exemple que la compagnie pétrolière française Total fait des bénéfices records grâce à cette crise. Et donc là, se pose l'éternelle question de savoir s'il ne faut pas que l'État baisse ses taxes ou s'il ne faut pas que l'État intervienne auprès de Total pour lui demander de faire des gestes supplémentaires. Donc le débat ne fait que commencer à mon avis et ça va certainement se tendre alors que, je vous le rappelle, on a un budget encore avant la présidentielle qui va être à l'automne, qui va être sur la table. Et là, ça risque d'être très, très, très chaud.
Et ce qui est marquant, c'est que ces chiffres, ces mauvais chiffres pour la France, arrivent un jour où on voit que en Italie, ça va un peu mieux. Et en Allemagne, encore mieux, finalement.
Oui, enfin,
petit peu moins mal, disons.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que la croissance française était quand même la plus belle croissance, absolument, entre guillemets. 0,9%, c'était ça qui était prévu. Les 0%, là, il faut voir que ça a quasiment rien à voir avec la crise, parce que c'est le premier trimestre. Donc, c'est là où on va avoir le chiffre du deuxième trimestre, lui, sera révélateur de l'impact du choc énergétique. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Moi, ce que je pense que pour le gouvernement, ce qui va être compliqué, c'est que toutes les hypothèses de croissance sur lesquelles repose le budget de 2026 sont en train de tomber les unes après les autres. Et donc la question, peut-être un premier rendez-vous politique, ça va être d'avoir une loi de finances rectificative, comme on dit, sur le budget 2026. Rappelez-vous, ça a quand même été compliqué de voter le budget 2026. Et donc, et quant au budget 2027, là, ça va être un exercice impossible.
Thierry, ça veut dire qu'on s'engage dans une crise économique mondiale et durable ?
Oui, absolument. Les économistes sont unanimes pour prédire effectivement que ça va faire mal, que ça va durer longtemps. Au minimum, effectivement, comme le disait Edwige, probablement un semestre. Ça, c'est dans la meilleure des hypothèses. Et chaque jour qui passe accroît cette menace de manière exponentielle. Parce que si on ferme des installations qui produisent de l'énergie, fermer le robinet, ça prend pas beaucoup de temps. Rouvrir le robinet et remettre des installations en état de fonctionnement, ça prend beaucoup de temps. On se focalise par ailleurs à juste titre sur le pétrole, mais il y a le gaz, il y a l'hélium qui les est engrais. Essentiel dans la fabrication notamment des microprocesseurs, les engrais qui sont une menace absolument considérable parce que ça peut être une crise économique. La menace est aujourd'hui, pour une certaine partie du monde également, d'une crise alimentaire.
Alors vous évoquiez justement les sociétés pétrolières qui, eux, ont fait des bénéfices. Il y en a certains qui disent il faut aller récupérer l'argent. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, nous rejoint sur ce plateau. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On le disait, Total a annoncé hier que ses bénéfices au premier trimestre avaient bondi de plus de 50% par rapport à l'an dernier. L'EPS a annoncé qu'il y aurait une proposition de loi déposée pour taxer les super profits des entreprises qui profitent de la crise. Ça veut dire quoi ? Les socialistes trouvent ça scandaleux qu'une entreprise gagne de l'argent ?
Non, pas du tout. J'aime beaucoup qu'une entreprise gagne de l'argent. Au contraire, si elle pouvait en gagner davantage et les redistribuer ensuite à leurs salariés, tout le monde s'en porterait mieux.
Donc bravo Total ?
Non, pas bravo Total. La réalité, c'est que vous avez des profits qui sont liés à des innovations. Vous avez des entreprises qui font des progrès technologiques, qui produisent des produits nouveaux, qui, par leur génie propre, arrivent à générer des profits supplémentaires. Mais là, où est le génie de Total ? Son génie, c'est d'être capable de vendre davantage, plus cher, à un moment où, en réalité, il y a une crise, qui est une crise mondiale, qu'il y a une guerre illégale. Et la vérité, c'est qu'on ne voit pas très bien quelle serait la justification au fait que Total considère que ses bénéfices sont tout à fait normaux et qu'il les distribue aujourd'hui à ses actionnaires est un fait assez épouvantable. Imaginez qu'il y a des gens qui aujourd'hui spéculent sur la guerre, sur la mort, sur un conflit qui va avoir un impact sur le monde entier et qui, en réalité, résulte d'une décision prise par Donald Trump, seul ou avec Netanyahou, qui nous a mis dans une situation qui est en fait impossible. Et nous allons maintenant faire payer aux Français les conséquences.
À qui vous feriez payer, justement, cette taxe?
Mais pas aux Français, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui la payent, cette crise, ce sont ceux qui ne partent plus en vacances. Et regardez ce qui se passe. Non seulement, il y a des Français qui ne partiront pas, mais il y a aussi des étrangers qui n'y viendront pas. Et c'est, en fait, un solde commercial qui va se dégrader, parce que nous avons besoin de ces touristes étrangers, américains, allemands, enfin, européens, qui viennent sur le sol français, voir Notre-Dame, voir le Mont-Saint-Michel, voir la Croisette, et qui vont rester, j'allais dire boudés, non, qui vont rester chez eux. Mais et donc, cette situation-là, elle suppose à un moment que effectivement on reparte. J'entendais à l'instant Edwige Chevrillon qui parlait de la croissance zéro au premier semestre. Bon, ben, au premier trimestre, pardon.
Oui, mais elle n'est pas due à la crise.
Non, qui n'est pas liée à la crise. Oui, mais vous imaginez ce qui va se passer si au premier trimestre, vous avez déjà une croissance zéro, avec la crise qui est une crise que l'on nous dit qu'elle qui va durer. Vous avez vous-même parlé d'un semestre minimum. Bon, mais est-ce que vous pensez sérieusement que on va pouvoir tenir avec des Français qui sont déjà à l'os? Ben, je crois qu'effectivement,
Total,
il faut redistribuer.
Total a décidé de prolonger le plafonnement des prix du carburant tant que la crise durera, a dit Total aujourd'hui. 1,99 par litre pour l'essence, 2,25 pour le diesel. Des opérations commerciales durant le week-end. Est-ce que vous saluez cela quand même?
Mais s'il n'y a pas de super profit, ils n'auront pas à payer la taxe sur les super profits. Comprenez bien qu'ils font leur
calcul
aussi.
Donc, vaut mieux qu'ils perdent de l'argent.
Mais c'est pas ce que je dis. Ce que nous proposons, c'est que nous prenions la moyenne des trois dernières années de toutes les entreprises qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires. On fait donc une moyenne et on compare entre cette moyenne et ce qu'ils font comme profit au cours des prochains trimestres. Et c'est sur la base de ces surprofits qu'ils sont imposés. Qu'est-ce que vous trouvez d'anormal là-dedans?
Mais c'est une économie dirigée que vous prenez là.
Yves Tréard, là c'est de la provocation.
Non, c'est pas de la provocation. Si. Écoutez, Total est une entreprise privée qui fait un geste, comme Guillaume l'a dit. C'est pas un geste d'ailleurs, c'est plus que ça, parce que ils ont décidé de plafonner le prix. C'est une façon de dire, bon bah voilà. Et d'ailleurs, les gains dont on parle et dont Guillaume a souligné l'importance, ce sont des gains qui n'ont pas été faits avec la crise actuelle, ce sont des gains qui ont été faits en vertu d'une spéculation qui précède la crise actuelle.
Mais ça, c'était juste un milliard.
Si.
On peut pas dire ça. Non, la réalité, c'est qu'ils ont acheté, effectivement.
Oui, au prix juste avec le marché.
Au prix du marché. Bah oui. Mais juste, au début milliard, de la crise. Et ils ont profité des prix qui augmentaient. C'est-à-dire qu'ils avaient un stock qui était acheté à 1 et ils le revendent à 1,5. En fait, je donne des chiffres au hasard.
Oui, votre question, Olivier Faure.
C'est pas ma question.
C'est quand même, pardon, mais enfin, c'est de la spéculation sur le dos
la
des
question,
Français.
C'est que, et ça s'appelle comme vous le savez, il y a toutes les compagnies pétrolières dans le monde et les 100 premières ont fait des profits qui sont assez importants.
Mais moi,
certes,
je ne propose pas de...
Si vous pénalisez Total, est-ce que Total ne va pas se dire, bah écoutez, moi c'est très simple, c'est déjà arrivé par le passé, je quitte la France et je vais me domicilier ailleurs, c'est très facile à faire.
Mais moi, je crois au patriotisme.
Oui,
contrairement à vous.
Et donc, je crois qu'un grand
patron comme Patrick Pouyanné, c'est un patriote. Oui. Et qu'il ne peut pas dire, parce que je n'arrive pas à faire des surprofits sur des bases qui sont celles d'une guerre, je m'en vais m'expatrier ailleurs. Enfin, vous imaginez la honte pour lui et pour l'entreprise. Enfin, il y a un préjudice, y compris en termes de réputation, qui serait terrible. Évidemment qu'il ne le fera pas. C'est pas la première fois qu'on taxe les surprofits. Et donc, et je rappelle, même pour ceux qui n'étaient pas encore nés, je ne l'étais pas non plus et vous non plus. Mais enfin, 14-18, il y a une taxe sur les super profits.
C'est gentil.
39-45. Ouais, on est à peu près, on est quasiment de la même génération. 39-45, c'est la même chose. En fait, on est dans une situation où, en fait, à l'issue de la guerre, avec le général de Gaulle, que vous n'avez pas connu et moi non plus, mais que vous avez plus aimé que moi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il faut taxer tous ceux qui ont profité de la crise, enfin, de la guerre pendant les 4 années qui ont précédé. Donc, on est bien là dans une situation
il faut que tout le monde soit patriote. Pour votre raisonnement, ce que je trouve, moi, un peu désagréable, si vous me permettez cette expression, d'avoir des profits indécents. Le but de Total Energy, c'est une compagnie pétrolière, donc, qui fait de l'énergie, qui produit du pétrole, qui extracte du pétrole, et puis qui en vend.
C'est ça son business. Donc je veux dire, c'est pas eux qui ont déclenché la guerre. Ils sont pas responsables de cette guerre. Évidemment, ça profite à leur activité, comme ça profite à toute l'industrie de défense, aussi à d'autres secteurs. Donc vous voyez, c'est pas indécent, je trouve, les profits de Total. Après, c'est la manière dont c'est quand même perçu, on va dire, par les Français. Il faut quand même voir que la France est un tout petit marché. C'est tout petit hein, pour Total Energy, qui est une compagnie mondiale.
Mondiale.
Et ils restent en France, même s'ils sont quand même mis à pied aux États-Unis, puisqu'ils se sont fait maintenant coter à New York. Et du coup, certains, effectivement, se sont inquiétés à ce moment-là en disant, tiens, est-ce que Total pourrait mettre son siège à New York ? Où ça serait sans doute beaucoup plus facile pour eux. Vous avez raison de souligner le patriotisme de Patrick Pouyanet et de Total. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que cet argent, il faut qu'il les redistribue entièrement aux Français ? Il pourrait le faire aussi à d'autres dans d'autres pays.
Oui, en fait, ça, c'est une possibilité, mais moi, je ne parle pas... Là, on s'est concentré sur Total.
Oui, pour moi, je parle de Total.
Je parle de
Total.
Tous ceux qui font des profits.
Parce que les 5 milliards, ils n'ont pas gagné pas en France.
Et pardon
parce
de dire que
oui, il y a des sur
ça représente
une
combien
telle marque.
Ça représente combien d'entreprises pour vous?
Ah ben, je ne sais pas combien seront frappés par l'augmentation, enfin, les surprofits. Je ne sais pas combien on fait des surprofits.
Et ça ramènerait combien?
Nous, on considère que ça rapporterait 2 milliards si la tendance se maintient.
Mais surprofit, c'est quoi?
C'est-à-dire que si la tendance ne se maintient pas, ben, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne des 3 années précédentes et ceux qui ont fait plus de 20% de chiffres supplémentaires par rapport à la moyenne des années précédentes, on considère que ce sont des profits qui sont de nature différente et qui sont liés à la crise.
C'est une loi totale.
Je veux revenir. Non, pas totale. C'est une loi totale, si vous voulez, mais c'est pas une loi pour totale. Et ce que je voulais revenir, d'un mot sur quand même sur ce qu'est un profit indécent. Imaginez une entreprise. Alors là, on parle plus du tout de. Enfin, une entreprise qui ferait, qui tirerait ses profits du travail des enfants. Est-ce que vous trouvez que c'est indécent ou pas?
Mais c'est pas du tout la même
chose. Vous comparez les bénéfices
de la totale. Mais là, c'est pire encore. On parle de profits qui sont tirés de la guerre.
Ce que je comprends pas, c'est que le réflexe, quand il y a une crise, et il y a une crise, et c'est vrai que les Français souffrent, pour beaucoup d'entre eux, pourquoi à chaque fois mettre une règle, qui est une règle de punition, finalement, vis-à-vis des entreprises.
Mais Tréard, c'est les Français qui sont punis, là. Non, mais d'accord, c'est pas possible de les laisser comme ça.
Regardez, vous avez quand même là une entreprise pour ce qui est Total Energy, qui fait un geste, justement, qui dit, je plafonne mon prix de vente. C'est déjà, me semble-t-il,
Pour vous, c'est suffisant, c'est déjà énorme, mais pour moi,
beaucoup.
Ça n'est pas. Oui, mais enfin, comprenez que s'ils font ce geste-là, regardez ce qui s'est passé sur le premier trimestre. Ils ont déjà fait ce geste.
Oui.
Et ils ont fait 5 milliards de profits supplémentaires. Mmh. C'est donc qu'ils ont bien compris qu'il y avait un intérêt pour eux, y compris à plafonner, ce qui n'empêchait pas de faire des surprises.
Olivier Faure, ça n'est pas illégal. Et vous venez de nous...
Mais je ne parle pas d'illégal.
Non, mais vous venez quand même de prendre l'exemple d'entreprises qui feraient travailler des enfants.
Et vous avez dit que...
Vous comparez Total avec des entreprises qui feraient travailler des enfants.
Vous avez même dit que ce serait pire.
Non, j'ai simplement expliqué qu'un profit indu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui profitent de situations qui ne sont pas liées à leur génie propre, mais qui sont liées à des situations. Je ne dis pas que Total fait travailler des enfants.
Non,
pas dire
mais vous
que
dites
pas
que les profits dont bénéficie Total, c'est la même chose qu'une entreprise qui ferait des profits avec des enfants.
Aujourd'hui, il y a des gens, enfin, des entreprises, qui font des bénéfices sur la guerre. Et la guerre, pardon de le dire, mais enfin, c'est des gens qui meurent tous les jours. Vous en avez vous-même le compte-rendu que vous faites à chaque journal. Et donc, oui, il est indécent de dire que dans un moment où il y a des gens qui meurent, où en fait on a une crise économique mondiale, où on a des Français qui se serrent la ceinture, de dire qu'on ne participe pas tous de la, enfin, et d'abord ceux qui le peuvent davantage, qu'on participe pas tous
Olivier
à l'effort.
Fort.
Et quand il y a un effort à faire, ce sont d'abord les plus gros qui
Olivier
doivent payer.
Olivier Faure, pourquoi mettre de la morale là-dedans? Il n'y a pas de morale à avoir. Se faire de l'argent sur la guerre, je suis désolé, mais l'économie de la guerre, ça existe aussi.
Ce que
je ne comprends pas, si vous voulez, c'est que le projet de loi que vous portez, la proposition de loi, pardon, que vous portez, c'est une proposition de loi qui se veut temporaire, le temps de cette crise, ou c'est une, elle serait pérenne?
Non, temporaire.
Parce que ça va encore défavoriser la France par rapport à tous ses partenaires
sur
le front économique.
Ça va arriver dans tous les pays. Parce que si la crise dure, tout le monde cherchera de l'argent et tout le monde cherchera à faire en sorte que, évidemment, les contribuables les moins fortunés puissent trouver là un peu d'oxygène.
Il posait la question.
Si vous suggérez qu'il faudrait, dans le même temps, plutôt augmenter les salaires, je vous suis.
Juste Olivier Faure, Yves posait la question des industries d'armement. Est-ce que ça veut dire qu'aussi les entreprises d'industrie de l'armement qui vont faire plus de bénéfices, il faut les taxer aussi?
Ah ben moi, ça ne me choque pas, oui.
Ça me choque pas. Ça rentre visiblement dans
mais
les...
Là, c'est pas, là, on parle pas de la même chose. Enfin, on est en train de...
Est-ce que vous considérez qu'une entreprise de l'armement, ce moment, qui a énormément de commandes, notamment des pays du Golfe, est-ce que vous considérez que ce sera des profits indécents?
Ah ben, il y a des profits qui sont des profits parfois indus. Et là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait la même chose dans, au sens où, en fait, une usine d'armement, c'est bien par sa production même. Et c'est parce qu'elle fait, en plus, c'est pas de la spéculation. Le missile ne vaut pas plus cher parce que la guerre a commencé. C'est là, ce que je dis, c'est que sur l'essence, vous êtes dans une situation où vous n'avez rien fait de plus. Vous avez un baril que vous avez acheté la veille. Vous le vendez 10 jours plus tard et vous faites
un bénéfice. Mais quand même, il y a de l'extraction, il y a de la raffinement.
Oui, bien sûr, d'accord.
Bah, c'est leur métier.
Ah c'est leur métier. Mais je dis pas que c'est pas leur métier, je dis pas que c'est illégal. Je dis simplement que parfois, il faut que, fait, dans un moment où tout le monde se serre la ceinture, que ceux qui, comment vous expliquer 5 milliards de profits supplémentaires, une entreprise qui a fait 11 milliards l'année dernière.
Vous Olivier Faure,
les profiteurs.
Yves, le débat ne fait que commencer. En un mot, Total, c'est une chance pour la France quand même.
Mais bien sûr.
Vous en êtes fier?
Bien sûr. Bon. Mais moi, je suis fier des entreprises françaises. Non, mais ne nous méprenons pas. Moi, je n'ai rien contre le monde de l'entreprise. Je n'ai rien contre les entrepreneurs.
Vous nous
je
l'avez
n'ai
dit.
Rien contre celles et ceux qui font même, y compris.
Vous
des
nous avez
profits.
Dit, ce
plus
sera,
simplement qu'à
Olivier
un moment,
Faure, merci beaucoup.
Il faut partager.
Vous avez dit, ce sera une loi Total, pas une loi contre Total.